RCF.
Tant que l'homme biologique n'est pas né à sa dimension spirituelle, il n'existe pas. C'est un message fort que nous adresse Maurice Zindel, l'un des grands théologiens du XXe siècle. Avec vous, Michel Fromager, nous continuons à découvrir cette pensée zindelienne qui nous déplace dans la manière dont nous concevons les échanges entre Dieu et l'homme. Zindel, nous le disions à la suite du Christ, dit qu'il est bon que nous renaissions naissance de nouveau. Oui. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Et alors il dit que le chemin royal pour renaître, c'est l'émerveillement.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cet émerveillement qui nous permettrait de vivre une expérience de naissance?
Alors, soyons clairs. D'abord, notre naissance biologique ne nous donne pas d'exister, je préciserai, en tant qu'être humain. Elle ne suffit pas, disons, à nous définir comme humains. Nous existons, on va dire, en tant qu'animal, au même titre que les animaux.
Avec des pulsions,
oui, avec des pulsions, envies, et puis, mais aussi une intelligence, et puis aussi de bon côté, faculté de s'adapter, de s'occuper de ses petits, de participer à la reproduction de l'espèce, etc.
Un animal mais, pensant.
Voilà, un animal pensant, tout à fait. Mais là, on est en plein darwinisme aussi, ça colle impeccable, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et donc, l'émerveillement est un chemin de nouvelle naissance, mais le fait d'avoir été émerveillé, et même au sens fort, c'est-à-dire dans ces instants où l'on perd complètement conscience de soi-même, où on vit quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de l'extase, une sorte de fascination, où les notions de temps, d'espace, disons, prennent s'étiolent, disparaissent, où on ressent plus qu'une joie, un enchantement intérieur. Alors, il y a de grands témoignages d'émerveillement qui sont extraordinaires, je n'en lirai pas maintenant, mais il y a notamment celui de Zindel, de son émerveillement, donc qu'il a princeps, en quelque sorte, chez lui, qu'il a vécu à Florence, donc en 1926, devant le tombeau des Médicis. Et il a senti qu'à travers, et c'est ça le mot important, c'est qu'à travers l'œuvre de Michel-Ange, en quelque sorte, quelqu'un d'autre, un être, il y avait une présence qui s'adressait à lui.
Donc la beauté artistique.
Mais alors justement, c'est là où Zindel est fou. Enfin, est fou. C'est là où il nous demande de nettoyer complètement nos concepts. Et c'est, je m'aperçois de la justesse. C'est-à-dire que Zindel va vous apprendre que le silence, pour nous, le silence est un concept, c'est un état, c'est un moment. La beauté aussi, c'est une notion. Pas du tout, c'est quelqu'un. La vérité, ce n'est pas une notion, c'est pas la conformité à ce que nous voyons, à ce que nous comprenons. La vérité, c'est la vérité de notre être, et cette vérité, c'est quelqu'un. D'ailleurs, le Christ dit bien, je suis la vérité. Donc, à chaque fois que quelqu'un se donne à la vérité, vit la vérité vraiment, ou la beauté vraiment, il y a la prise de conscience que, à travers, justement, ces données d'amour, de vérité, de joie intérieure, etc., un être nous parle. Et quelque chose qui me fascine, enfin, on n'est pas à côté du sujet, c'est un homme que vous connaissez bien, il s'appelle François Tcheng, de culture chinoise, personnage d'une délicatesse, d'une finesse absolument remarquable, et qui parle justement de la beauté dans des termes qui sont zindéliens. Et il fait vivre effectivement cette prise de conscience comme quoi, dans le don, eh bien, le donateur est là.
Et un musicien qui va offrir des notes, un peintre qui va offrir sa peinture.
Dans la mesure où il n'est plus lui-même présent, où son moi ne phagocyte plus effectivement sa propre œuvre, eh bien c'est effectivement son être réel qui transparaît, c'est Dieu en lui, c'est Christ en nous.
Voilà. Et il rejoint les spectateurs dans leur intériorité.
Et il rejoint les spectateurs dans l'intériorité et il éveille dans les spectateurs leur véritable intériorité. Et c'est ça qui est inoubliable d'ailleurs. C'est ça. Et c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à l'autre, effectivement, c'est de l'aider à s'éveiller à lui-même.
Alors Zindel dit que l'émerveillement donc, dont nous parlions, c'est le moment privilégié où nous sommes soudain guéris.
Et oui.
Guéris pour un instant de nous-mêmes et jetés dans une présence avec un grand P qui nous comble en même temps qu'elle nous guérit de nous-mêmes. Donc cette présence, elle nous émerveille et elle nous décentre de nous-mêmes.
Elle nous libère de nous-mêmes. C'est ça, elle nous libère de tout notre passé, de toute notre façon de penser. Nous sommes comme sortant de l'œuf, en quelque sorte. Et absolument émerveillés. C'est effectivement, la réalité, nous ne la voyons pas. Ou si nous la voyons, effectivement, sans les lunettes qui se sont accumulées, sans tous ces concepts que nous avons emmagasinés, sans tous ces savoirs qui forment une sorte d'écran, les moments où cet écran, justement, s'estompe, c'est l'émerveillement.
Mais c'est ce que peut ressentir l'enfant.
Mais absolument. Et c'est Zindel a une approche, effectivement, du regard de l'enfant, du visage de l'enfant, comme Berdiaïev d'ailleurs, qui est tout à fait intéressant.
Jean-Michel Fromageat, il y a quelqu'un que vous aimez particulièrement, c'est Eti Ilsoum,
oui.
Et qu'on pourrait citer là, à ce moment-là, de nos entretiens, parce qu'en pleine horreur de la guerre, elle est capable de s'émerveiller par un géranium, par une fleur sur sa fenêtre, alors que le monde bascule dans l'horreur, l'horreur. Donc il y a la force de l'émerveillement, c'est ça.
Tout à fait. Et ceci vous montre que l'esprit peut parler donc à l'être, même dans les circonstances les plus dramatiques. Parce que les circonstances dans lesquelles vit Eti Ilsoum sont des circonstances dramatiques. Elle a été donc dans ce camp de Westerbork, puis à Auschwitz, mais là on ne sait pas très bien. On n'a pas de lettres, hein, de témoignages sur... On remet un témoignage sur elle, mais pas de courrier d'elle. Mais on voit que même dans ces instants absolument dramatiques, l'esprit peut vous parler, alors à travers une fleur, effectivement, et vous réconforter, vous donner une paix, une joie qui vous permet justement de pouvoir aider les autres, de pouvoir être totalement disponible pour les autres.
Donc l'émerveillement, pour Maurice Zindel, c'est la voie royale pour naître à une présence qui nous dépasse et qui va nous emmener bien plus loin que notre petit enclos fermé de notre moi.
Voilà, vous le dites très bien, cet émerveillement est une voie de libération. Mais ceci dit, ce n'est pas une libération qui nous est imposée. Il faut y consentir, il faut jouer le jeu. Il faut dire oui, effectivement, à la présence qui nous parle à ce moment-là. Et c'est simplement dans la mesure où on lui dit oui, où on se met vraiment à son écoute, hein, où on l'accueille. Et là, il n'y a pas de tricherie possible, hein, que les fruits sont portés.
Mais comment vivre l'émerveillement? Parce que ça a l'air facile quand on parle de ça. Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'émerveiller.
Mais... on ne peut pas s'émerveiller, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout cela n'est pas à notre portée, on ne peut pas provoquer l'émerveillement, comme je ne peux pas dire je vais être amoureux, ça vient à travers nous, ça nous est donné.
Mais dans quelles conditions?
Mais il peut n'y avoir aucune condition. C'est même un temps. Alors, on sait qu'il y a des moments dans la vie, justement, où l'esprit parle, disons, avec plus de force qu'à d'autres moments. Mais justement, ce sont ces moments où nous nous présentons comme étant totalement émerveillés par ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous comprenons, ce que nous écoutons. Ou alors, dans ces instants, effectivement, où nous sommes amoureux. Ou alors, dans des instants aussi tragiques et où l'être est tout fragile, comme en fin de vie, à proximité de la mort. Bon, tout vacille. Et bien, à ce moment-là, l'esprit est là pour nous dire, mais attention, la direction est là.
Oui, c'est comme si un morceau du voile se déchirait,
mais il ne s'impose pas. Il faut vraiment, c'est très fragile, c'est très fugace. Dès qu'on retombe en soi-même, c'est comme si plus rien n'avait existé. Donc il faut garder le souvenir, la mémoire et se dire que cela nous a été donné une fois, cela nous sera redonné d'autres fois. Il faut se présenter comme étant disponible. Maintenant, deuxième chose, il faut dire qu'aussi, il y a une part d'exercice, c'est-à-dire que Zindel, mais comme tous les grands mystiques, nous demande de nous exercer par la méditation au silence intérieur.
Oui, alors j'aimerais qu'on parle un peu du
véritable,
silence.
C'est véritablement fondamental.
Parce qu'il dit que le silence nous met en condition justement de pouvoir percevoir ce qui nous est donné.
Tout à fait. C'est une condition sine qua non. Alors on ne va pas dire une condition suffisante. Hein. On peut méditer pendant des années sans jamais rien ressentir. Ça, c'est une évidence. Néanmoins, c'est une voie. Et c'est une voie, disons, dont la logique se comprend très très simplement. Simplement, et je pense à Tolère, mais Zindel dit exactement la même chose, ou à Maître Eckhart, pour que l'esprit puisse naître, il faut lui laisser de la place, c'est-à-dire taire tout ce qui est de l'ordre des sensations corporelles et tout ce qui est de l'ordre de notre imagination, il faut le laisser passer, il faut se vider complètement pour être à l'écoute de ce silence. Et Zindel a cette phrase extraordinaire, le silence c'est quelqu'un, et ce quelqu'un c'est le Christ. La parole de Dieu est une parole silencieuse, la plus belle des prières, dit Zindel, c'est l'écoute silencieuse.
Mais ça nous interpelle quand même à nous aujourd'hui qui sommes souvent dans l'image, le son, le remplissage.
Mais tout est fait pour ça. Sans faire de paranoïa, tout est fait justement pour obstruer cette voie qui nous mène à nous-mêmes. Parce que, bon, je vais être un peu dur, mais la société occidentale moderne a de très grandes qualités, mais elle est aussi animée par cette volonté qui est redoutable de faire en sorte que nous ne devenions pas nous-mêmes, parce que l'individu qui se libère, en quelque sorte, devient très difficile à catégoriser. Il échappe, en quelque sorte. Hein. À partir de ce moment-là, elle perd de son pouvoir, la société. Simone Veil employait l'expression de gros animal, hein, pour parler de la société. Et ce gros animal, il n'est pas très bien intentionné. On croit que nous voulons que notre libération, nous voulons que notre joie, notre plénitude. Mais tout ça, c'est de la surface. En fait, tout est fait pour nous éviter, effectivement. Enfin, tout est fait. Et ce qui est fait a pour conséquence, effectivement, de nous rendre le chemin toujours plus difficile. Voilà.
Donc se libérer, c'est une œuvre difficile,
oui.
Décisive en même temps.
Mais d'autant plus que nous participons à notre propre enfumage. Nous sommes partie prenante, il ne s'agit pas de dire il y a la société qui est mauvaise, qui est méchante. La société, c'est nous aussi. Mais là, le christianisme est insurpassable pour montrer effectivement toute la pugnacité de l'homme intérieur, de l'homme extérieur, du vieil homme. Qui ne veut pas mourir, effectivement. Nous avons construit notre vie d'une telle façon, avec des valeurs qui sont les telles, celles-là et celles-là, qui sont très valables ici-bas, mais c'est ça dont il faut se détacher. Mais cet être qui est construit sur ces valeurs-là, il ne va pas lâcher le morceau comme ça.
Donc le vieil homme dont parle saint Paul, c'est justement l'homme qui veut garder pour lui, qui veut...
Qui s'enferme dans sa propre vie, je dirais, socio-biologique, en quelque sorte. Hein. Tout est centré sur lui, sa famille, son environnement, ce qui est juste pour une barre, mais le Christ vient pour nous dire... Attention, attention, vous n'êtes pas que cela. Et si vous en restez là, à ce moment-là, la fin ne sera pas joyeuse. Et d'aucuns ont dit, je crois que Varillon le disait, que le Christ est venu ici-bas pour une seule chose, à savoir nous enseigner à naître à nous-mêmes, que nous avons la possibilité de naître à nous-mêmes. Et le prologue de l'évangile de Jean, que j'aime beaucoup et que l'on connaît, et nous dit cette chose sur laquelle il faut insister. On a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, contrairement à ce que nous croyons, enfants de Dieu. Parce que combien de fois j'entends, nous sommes enfants de Dieu. Pas du tout.
Nous avons à le devenir, alors.
Nous avons à le devenir, voilà. Ça, c'est très important. Et nous sommes libres de le devenir ou pas.
Nous terminons ces entretiens demain. Merci.